mécanique du journalisme.
Deuxième épisode, sur les traces du conte secret.
Je découvre que cette histoire du conte non déclaré était, dans un petit groupe, pour certains, un secret de Polichinelle. Il existerait un enregistrement dans lequel M. Cahuzac lui-même parle de son conte non déclaré en Suisse. Alors d'abord, vous savez comment c'est, on entend parler de quelque chose. Alors, il y aurait un enregistrement, bah, très bien. Alors on continue de chercher, et là je rencontre quelqu'un qui a eu l'enregistrement. Puis là je rencontre quelqu'un qui me dit à qui d'autre a été dépositaire de cet enregistrement. Et puis j'arrive à écouter cet enregistrement, mais à ne pas l'avoir. Et de fil en aiguille, y compris parfois il faut savoir tenir l'alcool, j'ai obtenu l'enregistrement à coup d'Armagnac. La personne à qui je voulais absolument arracher, enfin arracher, c'est évidemment une expression, hein, je ne vole jamais rien. L'enregistrement était au cours d'une soirée où nous avons bu de l'Armagnac et plus d'un verre. Et c'est vrai que l'état d'ivreté a participé au fait que la personne me dise « bon, bah, prenez-le, Arfi, l'enregistrement bon. ». Et c'était un enregistrement saisissant. C'est l'histoire qu'on a tous, je crois, connue une fois dans son existence, ce qu'on appelle le pocket call, l'appel de la poche. C'est quand vous rappelez un correspondant avec votre téléphone sans faire exprès. Il se trouve que Jérôme Cahuzac, à la fin de l'année 2000, au moment de cet enregistrement, appelle, il est député Jérôme Cahuzac, appelle le maire de la ville dans laquelle il se présentera plus tard, qui sera son adversaire politique, le député PS qui est Cahuzac appelle le maire qui est de centre-droit, qui est bâtonnier, avocat, et lui dit « Écoute, mon cher Michel, j'ai obtenu que Daniel Vaillant, le ministre de l'Intérieur de l'époque, vienne inaugurer le commissariat de Villeneuve-sur-Lot dans un mois. » Il raccroche. Et son téléphone rappelle la personne en question, alors que Jérôme Cahuzac est en train de discuter avec son gestionnaire de fortune de son compte en Suisse. Et voilà ce qu'enregistre le message.
Parce que j'ai toujours un compte mandé à l'ULS, qui ne veut plus rien, évidemment. La seule façon de faire moi, c'est l'ULS. Ça me fait chier d'avoir un compte là-bas. Ça me fait chier, non. L'UBS, c'est quand même pas forcément un peu planqué de l'ONU.
Ça me fait chier d'avoir un compte ouvert là-bas. L'UBS, c'est quand même pas forcément la plus planquée des banques.
Je confronte avec très peu de gens cet enregistrement, un certain nombre de personnes qui connaissent bien Jérôme Cahuzac et qui sont de nature à pouvoir me parler, qui me disent qu'il n'y a pas de doute sur le fait que c'est Jérôme Cahuzac. Nous faisons expertiser la bande pour voir qu'il n'y a pas de trucage. Est-ce que le son est continu? Il n'y a pas de coupure? Est-ce que le souffle est continu, etc. Et parallèlement à cet élément matériel, puisque on y reviendra peut-être, mais on m'a beaucoup reproché de ne pas avoir de preuves dans cette histoire. Il me semble que l'enregistrement est quand même un élément matériel probant, et d'ailleurs a été considéré comme tel par la justice. Et parallèlement, j'arrive à reconstituer l'histoire d'un agent des impôts dans le Sud-Ouest, M. Rémy Garnier, qui était surnommé Colombo, tant il était considéré comme un enquêteur remarquable, Rémy Garnier, qui lui-même avait été destinataire de deux sources extérieures au service des impôts, comme il l'écrira un jour dans un rapport, d'indices, de soupçons sur le fait que Jérôme Cahuzac, qui était alors député, était dépositaire d'un compte à numéro dans une banque suisse, d'un compte non déclaré.
Commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Cahuzac, 12 juin 2013, audition de Rémy Garnier.
Mes chers collègues, nous poursuivons nos travaux en recevant M. Rémy Garnier, ancien inspecteur des impôts, à la retraite. Je vous remercie, monsieur, d'avoir répondu à l'invitation de notre commission aussi rapidement. Comme vous le savez, cette commission d'enquête a pour objet de faire la lumière sur d'éventuels dysfonctionnements dans l'action du gouvernement et des services de l'État dans la gestion de l'affaire Cahuzac. Monsieur Garnier, vous avez la parole.
En préambule, donc, je souhaite réagir par rapport aux auditions de certains représentants de la Direction générale des finances publiques et de leur ministère de tutelle. À les entendre, personne n'a rien vu, n'a rien lu, n'a rien entendu. Moi, je suis en mesure de vous livrer les noms d'une dizaine de personnes qui étaient au courant ou auraient dû l'être si elles avaient fait correctement leur travail. Depuis 2008, 2011, 2012, pour ces gens-là, les révélations de Mediapart n'auraient pas dû être une découverte le 4 décembre 2012, puisque vous avez évoqué tout à l'heure mon mémoire du 11 juin 2008, et il est passé entre un certain nombre de mains.
Il avait demandé, cet agent, en juin 2008, de mémoire le 13 juin 2008, dans un rapport qu'il a écrit à sa hiérarchie et à une autre personne, de pouvoir faire une enquête digne de ce nom sur le soupçon qu'il y aurait sur le député Jérôme Cahuzac. Et non seulement l'enquête lui a été refusée, mais ça lui a valu des gros problèmes au sein du fisc, puisqu'il a été mis à la retraite d'office, il a été mis en grande difficulté. Et l'autre personne à qui il avait confié ce rapport, c'est le ministre du budget de l'époque, à savoir Éric Woerth. Bien de fil en aiguille, plus on creuse, plus on trouve, j'arrive à reconstituer une partie de l'histoire de l'argent caché de Jérôme Cahuzac. En effet, l'argent de la clinique qui n'avait pas été déclaré, son activité de lobbying qui, sitôt a-t-il quitté au début des années 90 le gouvernement et le cabinet de Claude Évin au ministère de la Santé sous le gouvernement Rocard, il se reconvertit dans le privé au service de certains des interlocuteurs privés qui étaient les siens quand il était lui dans la puissance publique, et il fait du lobbying pour un certain nombre de cabinets de laboratoires pharmaceutiques, et manifestement une partie de l'argent s'est évaporée là aussi dans des comptes offshore. Je découvre que le comte qui d'abord était en Suisse, on l'a fait voyager jusqu'à Singapour, je découvre qui est son gestionnaire de fortune, etc., etc. Et de fil en aiguille, et jusqu'au moment où je dois, même juridiquement, assumer ce qu'on appelle le contradictoire avec la personne sur laquelle je vais écrire, donc Jérôme Cahuzac. Le contradictoire, donc, ça consiste à interroger les personnes sur lesquelles on écrit avant de publier des informations, a fortiori des informations aussi sensibles et aussi accusatrices, en quelque sorte. On allait écrire quand même que le ministre du budget était un fraudeur fiscal. Bon, ce qui n'est pas rien. Ça a été très dur d'avoir ce contradictoire avec Jérôme Cahuzac. C'est un moment très particulier, je dois dire. En fait, j'ai envoyé une liste de questions par mail précises. Enfin, une liste, c'était pas énorme, je crois qu'il y en avait 5 ou 6, bon, à la responsable de la communication, qui est l'interlocutrice de tous les journalistes à Bercy, pour parler et poser des questions au cabinet du ministre et au ministre lui-même, une personne qui s'appelle Marion Boujard. Et donc je lui envoie à Marion Boujard une liste de questions en lui disant bah, « Voilà, je suis journaliste pour Mediapart et nous allons publier un article affirmant que... » Et donc s'ensuit 4-5 questions très factuelles, hein, si j'ose dire, pour... juridiquement, encore une fois, border totalement mon papier. J'ai pas le moindre doute sur ce que je vais affirmer, sinon je me jetterai pas dans ce bain-là. Enfin, je veux dire, si un journal comme Mediapart se trompe en disant que le ministre du budget a un compte en Suisse, et, enfin bon, c'est catastrophique pour le journal. Et d'ailleurs, je l'avais dit à l'antenne de France Culture plus tard, au moment où il y avait la grande bataille entre Mediapart et Jérôme Cahuzac, et on ne savait pas qui des deux avait raison, j'avais dit que si je m'étais trompé, je mettrais fin à mon métier. Pour une raison simple, c'est que je l'ai retrouvé, mais je crois que c'est dans un film de Sidney Lumet, il y a Paul Newman qui joue un avocat et qui parle à un journaliste et qui lui dit « Your story, my life ». C'est votre article, mais c'est mon histoire. Moi, je suis très, très sensible à ça. Je veux dire que nos articles sont susceptibles de leur faire mal, de fracasser des carrières. Donc, enfin, moi, je joue pas avec ça, quoi. Je fais très attention à ça. Et j'ai aucun plaisir, d'ailleurs, mais absolument aucun plaisir professionnel, à la difficulté personnelle que peut susciter la révélation de nos informations. Et donc, quand j'envoie ces questions à la communicante de M. Cahuzac, je sais que mon mail est imprimé et soumis à Jérôme Cahuzac alors qu'il est au Sénat en train de défendre le budget rectificatif de la loi de finances. Et quand elle lui a tendu mes questions, il a regardé, il a déchiré le papier, il lui a jeté dessus et dans un geste un peu de colère, lui a dit de mémoire, deux points, ouvrez les guillemets, des merdes comme ça, je ne veux pas en connaître. Fermez les guillemets. Bon. Ce que je sais, pour en avoir été témoin direct, c'est que dans la foulée, Jérôme Cahuzac a appelé lors d'une suspension de séance et lui a envoyé beaucoup de textos à un journaliste de Mediapart qu'il connaissait, qui est Laurent Mauduit, qui est d'ailleurs l'un des cofondateurs du journal, qui est spécialiste des questions économiques. Je pense que c'est pour ça qu'ils se connaissaient. Et il lui dit notamment au téléphone à Laurent, qui m'en fait part, évidemment, par loyauté, par confraternité immédiate, lui dit « Ce que fait Arfi, c'est dégueulasse. C'est comme s'il voulait voir sous les jupes de ma fille si elle était encore vierge. » Qui est quand même une phrase sidérante de la part de M. Cahuzac, puisque, évidemment, il n'y a rien, mais absolument rien de privé dans le fait de s'intéresser à l'éventuelle dissimulation fiscale d'un ministre ou d'une personne publique exposée, qui, en plus, au gouvernement, a charge de lutter contre les gens comme lui, à savoir les fraudeurs fiscaux. Et il va même un peu plus loin. Dans ce moment-là, qui est le moment de la chaleur de sa colère, il ne dément pas, en fait. Soit le ministre veut me voir et répond à mes questions et je publie mon enquête avec ses commentaires, soit il me fait savoir directement ou par le truchement de son attaché de presse ou son service de communication, j'ai aucun commentaire à vous faire. Il n'est pas obligé de me répondre, mais je suis obligé de lui poser les questions. Tout ce que je vous raconte se joue à l'échelle d'une demi-journée. Hein. C'est vraiment dans l'après-midi les questions, le soir les coups de fil. Là, on passe un peu au stade supérieur qui est « mes avocats vont prendre attache avec vos avocats », donc un peu la menace judiciaire de la part de Jérôme Cahuzac. Bon, il y a eu toute une bataille, une partie de la nuit, etc. etc. Et je me rappelle que le lendemain matin, mon avocat m'appelle en disant « Fabrice, le ministre est d'accord pour te recevoir, mais il faut que tu viennes avec un directeur ». Et celui qui m'a accompagné un matin à Bercy, dans les bureaux du ministre du Budget, c'était le directeur éditorial de Mediapart à l'époque, rédacteur en chef, quoi, François Bonnet, qui est l'un des fondateurs du journal. Et nous arrivons donc dans le bureau du ministre. C'est très froid et nous nous asseyons chaque partie, entre guillemets, d'un côté de la table. Donc le ministre avec sa directrice de cabinet d'un côté, François Bonnet, mon rédacteur en chef, et moi-même de l'autre. Et Jérôme Cahuzac avait un iPhone noir là, qui met sur la table et il dit j'enregistre la conversation. Et il se trouve que moi, à cette époque, j'avais exactement le même modèle d'iPhone. Et donc j'avoue un peu avec le recul, un peu par forfanterie ou côté un peu bravage comme ça, je colle mon iPhone au sien et je dis moi aussi, monsieur le ministre, j'enregistre. Je crois que c'était une façon de lui montrer que je n'allais pas m'en laisser compter, son mauvais jeu de mots pour un ministre du budget, avec son attitude un peu comme il sait être, hein, très, comme ça, très, très droit dans ses bottes, aurait dit Alain Juppé. Et l'entretien est très très court, puisqu'il dure de mémoire 9 minutes 50. Et j'ai beaucoup de mal à poser mes questions. En fait, c'est plutôt une sorte de discours plaidoyer, pro-domo du ministre.
Moi, mes questions sont très simples. Hein. Pourquoi vous n'avez pas déclaré ce compte à l'UBS ?
Parce que je n'en ai pas.
Parce que vous n'en avez pas.
Non, c'est ce que je vous ai dit, je n'en ai pas, j'ai jamais eu.
Vous n'en avez pas, vous n'avez jamais eu. Vous maintenez ça. Vous n'avez pas eu de compte.
Je vais le répéter jusqu'à la cinquième là. Hein. Vous l'avez dit.
Non, mais voilà. C'est bien de l'entendre. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais en propos préliminaire. Il y a eu des échanges entre avocats. M. Fuchs a tout de suite brandi la menace judiciaire.
Ah, ça, c'est clair que si vous publiez ça, j'attaquerai.
Vous pensez.
C'est clair, hein. Vous en foutez peut-être.
Hein, vous pensez bien qu'on ne s'en fout pas. Vous pensez bien que.
Je ne peux pas faire autrement.
Non, mais vous savez bien qu'on est et... habitué à ce genre de situation.
Oui, je pense à un dossier que vous avez publié sur Sarkozy et les millions de la Libye et que ça.
Ouais. Et que ça.
Donc vous publiez parfois des choses un peu légères.
Et que ça quoi?
Ça donnait quoi? Vous avez continué à publier?
Il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte?
Oui. Bon, écoutez, faites ce que vous voulez. En tout cas, si vous publiez, j'attaquerai.
Et là, va commencer une drôle de bataille au moment où on appuyait sur le bouton publié du journal.